Ça, c'est un parking au rez-de-chaussée.
La crèche, elle y est toujours. Hein.
Et
la...
ouais.
D'accord. Et puis la mairie.
On va aller avec, on va y aller.
Ça, c'est bizarre.
Ouais, parce que la permis, bah, les risques de chute, on voit pas sur cette image-là, mais les risques de chute depuis les étages qui sont au-dessus. Là, ils nous demandent de faire un essai pour faire comme c'est réalisé. D'aller au deuxième étage, de faire tomber un peu fort pour voir. On est obligé de créer un décalage. De la plage.
Ah, ma mère, on voit une photo de la plage, ma mère. Quoi. La direct, c'est vraiment une photo de la plage. Quoi. C'est là.
Là, ce qu'ils nous ont renvoyé ce matin, c'est... Ça, c'est ce qu'ils nous ont renvoyé ce matin. Tu pourras le dire à James. Il n'est même pas ouvert, s'il nous l'a renvoyé.
Je sais pas si il y a un contexte, ça change pas.
Non. Il n'y avait que le logo qui n'était pas initialement, quand Sophie m'avait dit... On ne viendra pas. Tu as raconté l'histoire.
C'est
quoi qui fait
Ah non, mais puis on
s'en
fout. On l'a prévenu un peu tard aussi.
Non, mais ça se fait. On est calme. Parce qu'au départ, c'était Pascal qui devait venir. Puis là, il y a eu un empêchement, c'est ça?
Ouais, et puis il avait un truc comme ça. Je sais pas où il est.
Mais là, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu.
Non,
typiquement, il n'y a pas d'enjeu.
Une conversation, il n'y a pas d'enjeu. Donc il est de ailleurs ou il est d'intensité
Allô. Je sais pas, je leur renvoie un texto, j'ai fait
alors, il est sur la moto.
Il est sur la moto, ouais, c'est ça. Elle connaît pas, hein. Comment il s'appelle, lui, on a dit, James Tyrone.
On peut dire aux gens qu'on va commencer dans 5 minutes, on attend l'intervenant qui va arriver dans quelques instants, en quelques minutes.
J'ai juste une toute petite annonce à faire. Voilà. Est-ce qu'on va commencer un peu en retard pour prévenir ceux qui sont là, pour pas qu'ils s'inquiètent?
Le micro, il marche?
Oui,
vas-y.
Oui, bonjour, Nicolas Martin, BMA. Avant de commencer à évoquer le sujet de santé navale et d'urban art, il nous manque un intervenant un petit peu essentiel. C'est le paysagiste qui vient d'atterrir à l'aéroport et qui est en route. Il sera là dans quelques minutes et on voudrait pas arriver à la fin de notre propos et qu'il soit pas là, puisque je crois que c'est lui là, que tout le monde vient écouter. Et voilà, donc d'ici 5 minutes, on va commencer.
James, je l'ai vu une ou deux fois au début.
Voilà. Il m'a dit qu'il n'y a pas de sur le terrain. Avant, on l'avait mis.
Quand est-ce que vous faites les plantations?
Moi, mais justement, il me parlait par rapport aux immigrants. Je vais aller aux pépinières. Il y a une nouvelle sur le site ce matin. On devrait. Tu as participé à des trucs à Agora?
fait un petit peu de conférence en attendant que ça commence. On a un partenariat assez lâche avec la boîte.
Non, mais t'as prévu d'y aller ?
Ah non, pas du tout.
L'hôtel, vous en avez tout ? Vous ouvrez ?
Hein ?
Vous ouvrez ? Et le parking est fonctionnel un peu ou pas ?
On va pouvoir démarrer.
On s'est déjà serré la main. On souffle, ça y est, c'est bon, on est assis.
Donc on va vous présenter l'opération Santé Navale et plus particulièrement après le projet urbain Land Art qui est développé en cœur d'opération par le groupe Pichet avec Aya comme maîtrise d'œuvre et paysagiste. Double casquette. Je vais commencer par vous présenter très rapidement BMA, qui est un outil singulier dans le paysage des intervenants en matière d'aménagement urbain. On est une SEM, c'est une structure relativement classique qui intervient pour mener soit des grands projets d'aménagement type des ZAC, ZAC cœur de Bastide, on est sur Bastignelles aujourd'hui, ou qui intervient plus ponctuellement pour traiter des sujets particuliers. Ça a été le cas au bassin à flot en face de la Fourrière, en face de la Cité du Vin avec l'îlot de la Fourrière, rive droite avec l'opération Kéris. On était un petit peu en tant que chef d'orchestre pour permettre la sortie d'un projet urbain particulier, et sur Santé Navale, qui était un sujet qui a été amorcé dans les années 2010. La ville de Bordeaux était propriétaire d'un site de 2 hectares à proximité de la gare, mais un petit peu loin, coincé entre le lycée Gustave Eiffel et la place André Meunier, qui était en reconfiguration, l'école de santé des armées, dite Santé Navale, un site qui était sur 2 hectares complètement fermé à la population. On ne l'avait jamais vu. Alors, il y avait l'atelier Recentre, qui était à l'époque animé par Nicolas Michelin, dont vous avez vu le travail sur les bassins à flot un petit peu avant, qui menait des réflexions. La réflexion, c'était comment réouvrir ce quartier, comment l'intégrer dans un système qui était celui qu'on appelle des trois places, qui reliait la place d'Ormois, qui est juste derrière le site de Santé Navale, à la place André Meunier, côté cours de la Marne, plus loin, place Sainte-Croix, et au-delà, sur les quais. L'idée, c'était de créer un axe, une voie verte. Alors, ce n'est pas de sa couleur ou de son paysagement, mais c'est une liaison douce qui permettrait aux piétons de déambuler de manière apaisée entre ces différents endroits. Le site avait des caractéristiques assez particulières, donc il était fermé, inconnu. Il avait été géré par l'armée, il avait fait l'objet de reconfigurations successives. Mais il y avait des éléments de diagnostic forts qui avaient été posés. 2 bâtiments emblématiques, le bâtiment Ferbos, qui est sur l'arrière, qui donne sur la place d'Ormois, et le bâtiment du cours de la Marne, qui donne sur la place André Meunier. Entre les deux, il y avait des éléments singuliers du patrimoine, un arc de triomphe qui était sur place, un monument aux morts, ou des éléments qui avaient une vocation plus symbolique, une chapelle, alors qui n'était plus en usage de chapelle, mais qui était un lieu à destination des associations des anciens élèves, donc des lieux de mémoire, et dont l'intérêt était la conservation et la mise en valeur dans le cadre du projet qui était à mener. Donc nous, Bordeaux Métropole Aménagement, on a pris le relais de la ville de Bordeaux pour l'aider à piloter le devenir de ce site. On s'est inspiré des faisabilités qui avaient été développées par l'atelier Recentre et Nicolas Michelin. On avait bien pris en compte les différents éléments et la place centrale de cet axe piéton. Simplement, qu'est-ce qu'on fait autour? Comment on réouvre le site? Comment on lui fait prendre du sens dans la ville? Puisque c'était aujourd'hui une dent creuse dans le paysage urbain. Ça avait sa propre fonctionnalité, mais c'était complètement déconnecté de tout le reste du quartier. Donc là, on a commencé à réfléchir avec des outils classiques d'urbanisme, un permis d'aménager. Mais ce n'était pas suffisant pour la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux, elle voulait avoir des garanties sur le devenir du site, sur le parti pris architectural. Et donc là, il a fallu qu'on passe à un stade au-dessus. On a utilisé un outil qui est assez classique, ça s'appelle un PC Valent Division, mais nous, BMA, on est des monteurs de projets. On n'a pas vocation à faire du logement à la place des opérateurs promoteurs qui savent beaucoup mieux le faire que nous. On est là pour aider la ville à structurer le projet urbain et porter, quand c'est nécessaire, un certain nombre de projets. Donc le diagnostic était posé, on était en plein cœur de ville, il fallait relier tout ça. Faire du tertiaire, ça n'avait pas de sens, on est à côté d'Eure Atlantique, il y en a déjà beaucoup. Faire du logement classique, oui, avec sa mixité, mais pourquoi venir rajouter du logement social à 25% alors qu'on est déjà dans un quartier qui en a pas mal? On a à côté le lycée Gustave Eiffel, l'IUT de journalisme, donc une vocation relativement jeune. On s'est dit, il faut qu'on mette le paquet sur le logement social pour les jeunes. Et dans le cadre de la reconfiguration du bâtiment Ferbos, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était un endroit pour faire une résidence sociale jeune assez innovante, mixant des publics. Ça, c'est ce qu'on a gardé en patrimonial, et c'est BMA qui l'a développé. Tout le cœur d'opération, par contre, était complètement reconfiguré. Donc là, on s'est attaché les services de AYA associés à Intensité. C'était Jean-Pierre Buffy qui était à la manœuvre sur le côté urbanisme. Jean-Pierre Buffy, celui qui a fait aussi l'île au Bonnac, à côté de Mériadec. Donc une expérience avérée, une qualité du dessin et une qualité de la réflexion qui avait beaucoup plu à la ville de Bordeaux. Et donc on avait notre architecte, notre tête pensante. Il nous fallait aussi un partenaire opérateur qui soit en capacité de nous aider à sortir l'opération et à porter des mètres carrés et à les développer tout en répondant aux objectifs de qualité, aux objectifs de prix qu'on s'était tous fixés avec la ville de Bordeaux au départ. Et c'est le groupe Pichet qui nous a accompagnés dans cette réflexion. À partir du moment où, mi-2013, on s'est mis en ordre de bataille sur ce dispositif, on a déposé un PC moins d'un an après. Le PC a été obtenu en janvier 2015 et là, les premières opérations ont été livrées de notre côté et les premières du groupe Pichet vont être livrées. Donc, un travail très intéressant qui a été développé par la maîtrise d'œuvre, c'est ce qui va vous être présenté. Désolé, le propos introductif a été un peu plus long que prévu. Sur la couture entre cette centre et ce cœur d'îlot, comment tout ça peut travailler, se composer pour amener un petit peu le paysage à se développer au-delà d'une bande qui avait été pré-identifiée très, très, très en amont.
Tu peux me donner la photo où on voit tout la première page. Non, encore celle qui était encore avant.
Celle qui est toute première.
Encore, toute première.
Oui, c'est pas grave.
Celle où on voit tout.
Celle où on voit tout. On voit le gymnase, on voit tout. La première.
Moi, je m'appelle Frédéric Bonnardel, je suis le directeur régional du groupe Pichet et j'ai avec moi Mathieu Capdeville, qui est notre directeur de programme. Alors, nous, on va parler très, très peu de temps, puisque l'objet principal de notre réunion, on a eu du retard, c'est le paysage, et je vais te laisser la parole dans deux minutes. Donc, ici, on a plusieurs produits, plus de 400 logements qui ont été commercialisés. On a Avenue de la Marne, donc, dans le bâtiment dit du Général, une 25 logements qui sont des logements avec une pierre de taille massive et porteuse sur les deux façades. Donc, c'est un produit un petit peu spécifique. On a des logements libres, on a des logements sociaux, on a une crèche, on a un hall suite, et ce que l'on voit pas bien ici, j'ai pas de pointeur, c'est que ici, là, en dessous, la boîte grise, là, c'est un gymnase, en fait, on ne peut pas le voir comme ça, c'est un gymnase. Et puis, de l'autre côté, à l'extrême gauche, ici, on a donc les parkings sous-sol. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'on n'a pas de parking aérien, et que pour du centre-ville, pratiquement tous les logements ont un balcon ou une terrasse, et qu'il y a, et c'est l'objet de ton intervention dans quelques instants, beaucoup de jardins, beaucoup d'espaces verts dans un espace assez finalement assez restreint et dans lequel on a pu mettre des logements qui, pour beaucoup, auront une intimité qu'on ne s'attend pas à trouver là parce que le dessin a été fait très intelligemment.
J'ai oublié des produits ou pas ? Non, à chaque fois, il y a 15 mètres.
Oui, bonjour, oui, un petit détail de plus, mais en termes d'urbanisme, c'est aussi important. À chaque fois, on se retrouve avec au minimum 15 mètres entre chaque bâtiment. Donc voilà, par rapport à l'image qui est un peu zoomée, qui est figée, on pourrait croire que c'est dense, mais dans la réalité, ça l'est beaucoup moins, puisque voilà, à chaque fois, 15 mètres, et on vient recréer comme des rues, 15 mètres à l'échelle d'une ville. C'est une vraie rue, hein, c'est pas des ruelles. Voilà, et donc en plus, donc, on a une résidence hôtelière et une résidence étudiante, en plus des éléments qui ont été présentés par Frédéric, plus des commerces en pied d'immeuble également.
Voilà, maintenant je vais laisser la parole au paysagiste puisque c'est le cœur du sujet.
Bonjour à tous. Excusez-moi de mon petit retard. Il y a beaucoup de feux rouges à Bordeaux. Donc je vais revenir pour revenir c'est là. Je vais revenir à cette image qu'on a de Bordeaux. Avant que je travaille sur ce projet de santé navale, c'est vrai que Bordeaux c'était une ville que je ne connaissais pas. Je suis venu donc en toute innocence à Bordeaux et pour découvrir cette ville. Et je me suis aperçu que c'était une ville très minérale, où le paysage est pas toujours évident à capter. Et on avait la chance, si vous voulez, sur ce site de santé navale, d'avoir une petite respiration, finalement, dans cette densité, et dans cette densité souvent de pierre. Et ce qui était intéressant, quand l'architecte m'a présenté, Jean-Pierre Buffy, m'a présenté son projet, j'y ai vu une sculpture de pierre, de mur, urbaine, et il fallait répondre à cette monumentalité architecturale, à une intervention forte et à une identité forte paysagère. C'est pour ça que on s'est amusé, on s'est dit, on va poser, on a pris en référence la dune d'Aquitaine. On s'est dit, c'est intéressant parce qu'on est dans une dimension paysagère, on s'est dit, est-ce que l'on peut, sur ce site, évoquer ce qu'est le grand paysage autour de Bordeaux. Et un jardin, finalement, c'est aussi ça, c'est de pouvoir essayer de vous sensibiliser, d'éveiller vos sens et de vous transposer vers un autre site, vers d'autres paysages. Donc on a tout simplement commencé comme ça, on s'est dit, tiens, on va poser la dune en travers des bâtiments et les immeubles sont comme des ouvrages posés sur cette dune. Et ça a marché assez bien puisque en coupe, on s'est rendu compte que le bâtiment était étagé entre chaque volume. On avait le gymnase, on avait des strates comme ça. Et on s'est dit que si on transposait cette forme, ce cordon dunaire, on allait pouvoir adapter les plantations finalement à chaque étage de l'architecture. Donc on a transposé ça ici en coupe de façon schématique. On a la dune blanche, la dune grise, les franges boisées, la dune boisée fixée, qui constitue finalement l'ensemble dunaire que l'on peut retrouver sur la côte. Dans ces formations, on a une diversité de plantes, de paysages qui va nous intéresser, que l'on retrouve aussi de façon très fréquente en ville. Et on s'est dit, c'est marrant, on va utiliser ça et puis on va transposer ça sur le site. Ici, on a une coupe où on voit très bien le découpage entre les bâtiments avec le volume du gymnase qui se détache au niveau de la dune blanche, qu'on a appelée la dune blanche. La dune grise, on a un ensemble construit où on avait la crèche et les jardins qui commencent à être travaillés au niveau du sol pour retrouver finalement petit à petit la sente qui traverse le site, qui permet de rejoindre la place d'Ormois et la place Meunier, qu'on a appelé la lette. La lette, en paysage, c'est ce qui est derrière la dune. Donc tout ça nous a amené à imaginer une composition végétale très forte qui est autour de ces différentes strates architecturales entre les bâtiments, et les bâtiments vont se détacher de ce paysage. On a ici une composition végétale qu'on a repris au niveau de la dune boisée. Alors, si vous faites attention, que vous lisez ce qui constitue la palette végétale, vous verrez qu'il n'y a pas forcément que ce que l'on peut trouver sur les cordons dunaires. Notre idée, c'était de plutôt d'imaginer et d'évoquer cette formation-là en utilisant des végétaux comme les pins, certains saules, mais aussi on a des poiriers à feuilles de saule, des plantes qui vont parfaitement s'adapter au milieu urbain. On a ici donc un travail sur chacun de ces palettes végétales qui sont réunies par ensemble. Moi, c'est peut-être aussi mon côté anglais, j'aime bien les mixed borders. J'aime bien travailler aussi les végétaux en les associant par groupe pour créer cette diversité, ces ambiances au niveau du sol. On a ici la dune grise, donc chacune de ces strates correspond à un niveau dans l'architecture, c'est-à-dire que plus on va s'élever au niveau des toitures, plus on va retrouver des strates végétales qui vont être composées et rappelées, évoquées, le paysage que l'on peut retrouver de l'autre côté. Donc c'est un peu un voyage. C'est un voyage à travers les plantes, c'est un voyage à travers le végétal que l'on a essayé de proposer ici quand on se promène et qu'on traverse cet îlot-là. Et le site, le nom même du site Santé Navale était aussi une évocation au voyage. Donc on retrouve ici un ensemble de végétaux aussi sur la strate haute. On a toujours des images qui nous ont permis qu'on a prises sur la dune. Et on essaye à chaque fois de retrouver une palette végétale qui va correspondre à ce paysage-là. Ici, on a des vues sur la Sente. La Sente, c'est différent. C'est l'endroit où on traverse, c'est l'endroit où on passe à travers le site. On s'est dit, c'est intéressant de travailler le sol comme si c'était un platelage en bois qui nous amène vers, à travers ce paysage-là, comme si on traversait la dune. Et on la traverse avec des végétaux qui sont un peu plus travaillés au niveau de la palette, au niveau de la forme aussi. On a beaucoup de CP fleuri, donc qui rappelle, je ne sais pas si vous voyez, de temps en temps, quand vous approchez du bord de mer, vous pouvez traverser des petites forêts de tamaris. C'est un petit peu cet esprit-là. Donc ici, toujours la palette végétale. On a une composition d'environ 80-90 plantes sur ce site, donc c'est assez riche. C'est fait exprès. Et pourtant, il y a peu, finalement, d'espace au sol. Donc même si l'espace est assez restreint, il faut justement travailler la palette végétale pour qu'elle soit le plus riche possible. Pour éviter justement la monoculture et les risques de perte de végétaux sur certains, s'il y en a quelques-unes qui peuvent ne pas marcher, on a toujours les remplaçantes qui viendront. Et ça permet vraiment aussi d'avoir tout au long de l'année un paysage qui change et qui est en mouvement. Ici, on a quelques vues sur la Sente, avec toujours une animation au niveau des rez-de-chaussée. L'architecte a voulu creuser ces volumes au niveau des rez-de-chaussée en vis-à-vis de la Sente pour créer à chaque fois de l'animation. On pourra y retrouver probablement des commerces. Il y a un hôtel. Donc il y a quelque chose qui va se passer entre ces deux sites. Évidemment, il y a une relation très forte entre l'espace privé et l'espace public. On essaye d'effacer quelque part les limites. L'espace privé participe finalement aussi à l'animation de l'espace public sur ce site. Les limites sont travaillées, les clôtures sont travaillées pour disparaître le plus possible dans le paysage. On s'est toujours inspiré aussi de ce qu'on pouvait trouver au bord de mer, c'est-à-dire les ganivelles. Et du coup, toutes les clôtures seront travaillées dans ce sens-là, comme si on était dans cet esprit, dans ce vocabulaire qui nous rappelle le bord de mer. Donc là, on a d'autres travaux sur les clôtures. Donc ça, c'est toujours un travail qui est assez fin et assez important. Le travail de la limite, c'est quelque chose auquel on prête beaucoup d'attention, on a tendance de temps en temps à l'oublier, mais c'est quelque chose qui doit participer finalement à l'ambiance de votre jardin et à l'ambiance du paysage. Donc, que ce soit un mouvement de terre, que ce soit la position, le matériau, tout ça doit pouvoir faire partie de votre concept initial. Donc là, on a vu la séparation qu'on pouvait avoir entre les différents jardins que l'on va retrouver en toiture, les jardins privés. Donc une partie de ces jardins privés seront préplantés dans le cadre du projet. Finalement, on oblige le propriétaire à dire vous n'aurez pas le choix, on va planter pour vous. Mais on lui laisse quand même de la place. On lui laisse de la place avec des zones, des terrasses qui sont aménagées, des zones en gazonné qui seront des petits jardins posés au niveau dans la dune. Ça, c'est des parties qui sont toujours sur la terrasse, qui sont des parties accessibles en copropriété. Donc pareil, il y a une différenciation entre la limite entre jardin et la limite entre l'espace de la copropriété et privatif. Et là, on utilise des poteaux écorcés les cheminements en bois. Et un travail jusque dans le plus petit détail. Ici, par exemple, c'est un détail que j'aime bien, que j'ai transposé, que j'ai copié quelque part à Pascal Cribier, qui est un paysagiste de renom, qui a fait ce petit détail-là au Jardin des Tuileries, qui donne la sensation, en pliant la bordure en acier, que la pelouse est décollée du sol. Et ça donne un effet de flottement, comme si on était sur un radeau, comme ça. Et c'est assez beau. On n'a plus de limites et c'est encore plus facile aussi pour l'entretien. Je reviens sur les images. Donc, j'ai essayé d'aller vite. Hein. Donc, si vous avez des questions, sont bienvenues. Si vous avez des choses que vous voulez revoir sur la présentation, dites-le nous. Vous pouvez lever la main. Des questions ? Je passe le micro.
Une des particularités du travail qui a été mené par le volet paysagiste de la maîtrise d'œuvre, c'était d'arriver, on va le voir un petit peu plus tôt, dans la conception que Jean-Pierre Buffy avait développée pour ce site, c'était un système de lanières en fait, qui venait entrecroiser ces principes bâtis et des espaces paysagers qui viennent rentrer vers l'intérieur du site et donner de la perspective quand on est depuis cette sente. Il y avait un autre enjeu qui était la conservation d'un ensemble de platanes qui est en cœur d'opération. Le parking souterrain fait le tour de ce platane, de ces platanes et de la chapelle. Donc ça a été une contrainte complémentaire, mais c'était aussi une évocation de l'histoire du lieu et un élément de composition qui était intéressant, qui donne déjà du cœur au projet, même si les pelles ne sont pas encore parties, si les ouvriers ne sont pas encore partis. On a déjà la sensation, quand on a la chance de pouvoir aller visiter le site, ce qui est notre cas, on a la perception urbaine déjà qui était bien là, et la sente, ou là les piétonnes, ça dépend, on l'appelle comme on veut, qui donne une perspective qui est assez folle, qu'on avait du mal à saisir, nous, en tant que porteurs de projet au départ. C'était un point... un très gros point d'attention de la part de Nicolas Michelin puis de Philippe Prost qui était à la tête d'Eurocentre et le travail qui a été fait par AIA pour élargir encore la perspective visuelle au niveau de Barbet. On est en face de la Rock School, il y avait un vieux bâtiment qui a été démoli et l'emprise de l'hôtel développé par le groupe Pichet a été resserrée pour ouvrir la perspective au maximum sur l'entrée de la Sente. Et c'est assez saisissant maintenant qu'on a pu déposer les murs d'enceinte parce que le chantier avait suffisamment avancé, de voir la perspective qu'on a depuis la place d'Ormois jusqu'au cours de la Marne et jusqu'à la place André Meunier.
Oui. Alors là, justement, vous voyez quelques photos du site. On a repéré quelques arbres que l'on a conservés. Évidemment, on a essayé de conserver les plus beaux arbres. Notamment, vous avez là en 1 l'allée de platane qui est conservée. Donc tous les bâtiments, finalement, ont essayé de se glisser entre ces arbres qui existaient. Donc il y a vraiment un travail par rapport à l'emprise de ces arbres que l'on voulait conserver, qui sont majestueux. On a des micocouliers qui sont situés là, vers le bâtiment sur la place Meunier, qui sont magnifiques, les numéros 4. Et le numéro 2, on a des pins gigantesques qui sont conservés aussi. Et en 3, je pense qu'ils ne sont plus là. C'est ça. Donc finalement, les plus beaux arbres, on les a gardés. On n'en avait pas beaucoup non plus. Mais il y avait beaucoup. Pardon.
Oui. Alors, oui, je disais que initialement, on le voit là sur la photo de l'état initial, il y avait énormément de zones où il y avait de l'enrobé et du bâti. Donc on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup plus de verdure en cœur d'îlot.
Oui, on était vraiment dans une cour militaire. C'était quelque chose de très minéral, très dur. Donc c'est pas évident d'essayer justement de changer complètement ça, en même temps de construire tout ce qu'on construit. C'est mine de rien, c'est quand même un programme qui reste assez dense, même si il y a beaucoup de respiration dans l'architecture et entre les façades.
Et donc aussi dès la conception, les niveaux d'altimétrie des dalles du rez-de-chaussée de l'ensemble des bâtiments ont été aussi calés en tenant compte justement de la place des arbres, donc le numéro 1 par rapport à l'altimétrie des arbres existants, pour ne pas avoir à venir les dessoucher, pour évidemment pas les abîmer.
On avait pas mal aussi d'éléments historiques à conserver, puisqu'il y a une porte monumentale, il y a la chapelle qui est juste à côté du 1, que l'on peut voir, qui se trouve entre les deux, au bout de l'allée de Platane. On a, je crois, le monument aux morts qui est étonnant,
à gauche numéro 4, qui va être déplacé sur la Sente.
Qui est déplacé sur la Sente, à l'entrée de la Sente. On a également la chapelle qui se retrouve sous l'un des bâtiments, intégrée, enchâssée dedans. Donc il y a une imbrication...
Enchâssée, mais sur une des façades, un travail qui a été fait d'ailleurs en cours de chantier, une modification qui a été faite, c'était de conserver la façade principale, qui ne donne pas sur la place des arbres, mais plutôt en cœur d'îlot, qui a été conservée et mise en valeur, et qui sera aussi retravaillée avec de la pierre rénovée.
Alors c'est vrai que c'est un projet qui, d'un point de vue architectural, c'est un vrai challenge. C'était pas forcément évident, et moi je dois applaudir l'architecte, parce qu'il a fait un travail absolument remarquable. C'est un collègue que j'aime beaucoup qui s'appelle Sisley, qui travaillait sur ce projet. Aujourd'hui, c'est David Muscarello qui suit aussi le dossier.
Avec Sisley qui est toujours là.
Mais Sisley est toujours là. Et Sisley, c'est un petit génie qui s'est absolument travaillé tous les volumes. Il a une vision en trois dimensions absolument incroyable. Et c'est vrai que c'était un vrai bonheur de pouvoir travailler avec lui et d'avoir la possibilité finalement aussi de créer ce paysage sur ce projet-là. C'est pas toujours évident quand on dit à des aménageurs ou à un promoteur de dire écoutez, on va vous faire des jardins, mais des vrais jardins sur les toits.
C'est pas neutre parce que ça a forcément un impact technique de par rapport à la dalle, par rapport aux fondations, et donc il y a beaucoup de choses qui ont été calculées en ce sens dès le départ. Et d'ailleurs, ouais. Pour les aussi, il y a une forme, tu peux en parler là, comme on a beaucoup d'altimétries différentes, on peut mettre aussi à un moment.
Oui, voilà, il y a une complexité par rapport au jardin sur dalle. Ici, on a une grande partie, je veux dire, presque la moitié du projet est sur dalle. Donc, ça amène une très grande complexité par rapport à un aménagement paysager, à l'étanchéité, au DTU. Il y a des choses à respecter par rapport à l'architecture. Alors, c'est vrai qu'il faut...
Il y a l'avis de la copropriété, parce que nous aussi, on a... Cette solution-là, enfin, à chaque fois, on réfléchit pour la livraison, mais pour les années futures, quoi. C'est ça. Il faut que ça fonctionne dans le temps.
Alors, pour un paysagiste, c'est les DTU, les étanchéités, c'est pas toujours quelque chose qui leur parle. Moi, c'est vrai que j'ai la chance de travailler depuis 15 ans dans une agence d'architecture. Donc, je commence à m'intéresser, enfin, je m'intéresse depuis quand même assez longtemps à toute cette problématique architecturale. Ça me permet de aussi comprendre ces problématiques-là de construction qui sont fortes, de l'eau, puisque c'est pas toujours la même responsabilité. Celui qui va mettre en place la terre végétale sur la toiture n'est pas forcément la responsabilité de l'entreprise d'espace vert. Donc il y a toute une synthèse à faire assez complexe. Beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine en aménagement classique sur quand on veut faire des jardins sur des toits ou sur des dalles. Et ici, c'est vrai que c'est un vrai challenge. On a, je pense, travaillé beaucoup avec Sisley et avec vous pour trouver le meilleur compromis et avoir à offrir un jardin où la dalle disparaît, où on n'a pas du tout l'impression d'être sur quelque chose de construit au-dessus d'un gymnase, au-dessus d'un parking, au-dessus d'une crèche même. Voilà.
Autre élément complémentaire, et bien évidemment, on utilise des systèmes d'arrosage qui sont mis en place dès la livraison. Donc ça, c'est aussi pour la pérennité, et bien évidemment. Et il y a aussi un contrat annuel. Donc la première année est prise en charge par le promoteur pour être sûr que l'ensemble des végétaux poussent. Et si nécessaire, la première année, on est susceptible d'en changer également aussi. Et une garantie en ce sens-là d'avoir une pérennité dans la durée.
Tout ça pour en fait dire que ce site va être vraiment atypique pour la ville de Bordeaux, par rapport à une nouvelle vision d'urbanisme que l'on développe, que développe BMA, avec ce projet très ambitieux de rejoindre, de créer des vraies traversées paysagères à travers la ville de Bordeaux, notamment d'ici, de la place d'Ormois jusqu'au quai. Donc on aura une perception nouvelle de ce qu'est la ville, et c'est peut-être une évolution qu'on va peut-être voir arriver de plus en plus souvent sur nos projets urbains.
En effet, il y a une dizaine d'années, un projet comme celui-ci, peut-être qu'on aurait fait des bâtiments plus retournés vers eux-mêmes avec une cour centrale très paysagée, donc vraiment pour les copropriétaires. Là, c'est l'inverse. Le travail qui a été fait lors du plan masse, c'est depuis la sente piétonne qui sera publique, on ressentira vraiment, et donc les jardins seront ouverts à la population. Voilà, on le ressent bien. Et donc aussi, pour finaliser, en termes de timing, ça c'était toute la partie conception, ainsi de suite, mais par contre, aujourd'hui, donc, on va livrer la première phase avant la fin de l'année, donc on a déjà toute la partie au-dessus du gymnase. Et au-dessus de la crèche, on a déjà amené la terre végétale et des plantations ont déjà été plantées là depuis quelques semaines. Et le gros du travail va être fait à partir d'octobre. Donc là, ça va vraiment devenir encore plus concret.
À la Sainte-Catherine.
Exactement. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ?
Je vais vous donner le micro parce que... Excusez-moi, tout sera terminé quand ?
La fin de la dernière tranche du bâtiment A, donc plus près du bâtiment Côte de la Marne, on terminera en septembre l'année prochaine, dans un an.
C'est le moment d'acheter.
Oui. L'Arc de Triomphe a été conservé au même emplacement. Il a été élargi de quelques centimètres de chaque côté afin de laisser passer le camion d'ordures ménagères et le camion des pompiers, puisqu'il y a une voie de contournement qui est nécessaire en termes de sécurité. Et l'idée, c'est que les camions d'ordures ménagères ne rentrent pas dans les parties paysagées et ne rentrent pas aussi sur la sente piétonne. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir cette voie de contournement qui longe le lycée Gustave Eiffel.
Excusez-moi, dites-moi.
Nous avons notre jardin, Novicia, il fait partie de l'itinéraire.
Oui.
Le vôtre ? Oui.
Ah, d'accord. Donc vous êtes juste à côté, vous êtes voisin. Ah bon. Bah, c'est bien. On va...
Oui, parce qu'on n'en a pas parlé non plus au départ, mais en plus, on limite donc côté Courbarbé. Donc côté droit par rapport à la photo ici, les bâtiments, on a deux bâtiments scolaires qui ont été livrés récemment là, pour la deuxième partie. Donc on est aussi la sente, une partie de la sente permettra d'enlever la dangerosité avec les enfants qui rentrent par le coul barbé et le faire rentrer par la sente piétonne. Donc c'est un vrai quartier dans le quartier.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie.